Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue dans ce podcast de Game Info 521 avec le tyran.
Bonsoir.
ATH.
Salut, salut.
Et Garu. Alors au sommaire de cette semaine, on va vous parler des deux conférences qu'il y a eu cette semaine, du State of Play et du Summer Game Fest. On a une petite sélection de jeux qui nous ont retenu notre attention, on va dire ça comme ça. Ensuite, on va enchaîner avec Amazon qui reprend la licence James Bond à IO Interactive. Et je vous ferai, pour terminer, un petit test de The Run, un jeu conseillé par Kafka. Voilà, on va commencer par le premier jeu de notre liste qui est Rayman Legends.
Alors, je tiens à préciser en préambule, c'est le seul jeu de la sélection qui a été diffusé durant le State of Play. Je tiens à le dire, cette liste qu'on va vous donner est 100% subjective. Elle n'a pas vocation à être exhaustive. Et il se trouve que malheureusement, que ce soit le State of Play ou le Summer Game Fest, alors il y a eu plusieurs maladies. La maladie du pas de gameplay, déjà. Moi, je suis désolé, un jeu vidéo, c'est du gameplay. Si tu ne montres pas du gameplay, ça va être un problème. Hein, voilà. Quitte à... Enfin, je sais pas, tu fais une conférence de jeux vidéo, moi, j'aurais tendance à dire, vous voulez faire un trailer cinématique ? Très bien. Est-ce que, après la conférence de jeux vidéo, vous pouvez pas diffuser un peu de gameplay pour les gens qui se seraient dit, oh tiens, ça a l'air cool, je vais m'enseigner. Ça aurait été pas mal quand même, parce que pour le coup, il y a plein de jeux dont je vais pas parler ici, parce que, ben, souvent, pas assez d'infos, quoi. Donc, voilà. Donc, du coup... j'ai retenu qu'un seul jeu du State of Play. Alors vous allez me dire, mais il n'y a pas God of War, mais bon, c'est God of War, on sait à quoi s'attendre, donc rien de plus à dire là-dessus. Ce qu'on a vu, c'est du God of War, et a priori
si on peut dire un truc quand même dessus, quand même, c'est que enfin un jeu next gen, quoi, parce que c'est très beau, mais après on sait à quoi s'attendre, mais je veux dire,
voilà, c'est réglé comme du papier à musique derrière,
c'est ça. Mais en fait, ce qui est bien aussi, c'est qu'avec ces conférences là, c'est que enfin on se dit, bah voilà, on est passé sur PS5 et Xbox Series. On a vu quand même des jeux très beaux visuellement.
On va en parler tout à l'heure avec Crossfire, moi qui m'a mis mais une énorme claque dans la gueule, quoi. Enfin,
voilà. Après voilà, ce qui est cool, c'est que pour le coup, le God of War l'a fait. Il y a 23 minutes de gameplay supplémentaire. Donc là, ils ont quand même joué le jeu.
Oui, pour le coup, sur God of War. Ils ont bien mis le paquet. Et j'ai envie de dire, d'une manière générale, le State of Play, c'est pas la conférence la plus à critiquer à ce niveau-là. Le Summer Game Fest, par contre, voilà. Donc, il y a un jeu que j'ai retenu pour ma part, et ce jeu, c'est le remake de Rayman Legends, Rayman Legends Retold. Et j'ai envie de poser une question. Pourquoi ?
Eh ben,
l'argent
pour faire des sous, voilà, c'est ça.
Mais,
tâter le terrain pour pouvoir en faire
les gars, excusez-moi, l'argent, il y a des licences chez Ubisoft qui sont quand même un peu plus cotées que Rayman, excusez-moi. Donc l'argent, même pas pour moi, hein, honnêtement. Hein,
peut-être pour redorer leur image, qui n'est pas forcément terrible en ce moment.
Et ouais. Pour redorer ton image, tu fais un remake d'un jeu qui n'en avait pas besoin.
Bah, j'avoue que moi, quand j'ai su que Retold allait sortir, j'ai dit, mais pourquoi ? Le jeu était déjà très beau sur Wii U et sur toutes les plateformes sur lesquelles il est sorti par la suite. En refaire un, oui, certes, le jeu est un peu plus beau, ça, il n'y a pas photo, hein. Il y aura des nouveaux niveaux, des nouveaux
surtout
ajouts.
Surtout que maintenant, il est en 3D, en fait.
Enfin, en 2,5D, pour être précis. C'est-à-dire que tu auras peut-être des phases un peu à la Crash Bandicoot vue de derrière. Hein. Mm. Mais pour le reste, le jeu, c'est quasiment le même, en fait. Quoi. Enfin, c'est en vue de côté, 2,5D. Alors, par contre, moi, le jeu, je le trouve très joli. Alors, je tiens à le dire, je ne suis absolument pas d'accord avec les gens, parce que j'ai vu des commentaires comme ça, qui disent « Ouais, c'est de l'AI slop, c'est pas beau, machin, c'est une insulte au machin. » Non, 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 non.
Non,
arrêtez de fumer du crack,
là.
Les gens.
Ouais,
le jeu clair. Est très, très beau. Faut... C'est irrespectueux de dire ça, vraiment. C'est... Arrêtez avec votre intelligence artificielle. À un moment donné, ça se voit que les gars, ils ont bossé, quoi. Enfin, je suis désolé, c'est magnifique. Enfin, voilà. Le jeu est très beau, mais il n'en avait pas besoin, en fait.
C'est chouette.
Non.
Bah, en fait... Moi, je me dis pourquoi ils n'ont pas fait tout simplement une compilation avec Rayman Origins, qui était sur le même moteur que Legend, Et en ressortant ça sous forme de compilation directement, ça aurait fait moins de travail. Et puis, ils auraient pu faire de l'argent facile en sortant les consoles
ou même,
sur...
Non, mais à la limite, tu veux faire un remake. Faire un remake de Rayman 1, par exemple.
Bah, ils ont ressorti Rayman 1, mais dans l'état, dans son jus, quoi.
Oui, mais justement, ça aurait été l'occasion de refaire Rayman 1, pour le coup, qui en avait peut-être un peu plus besoin que Rayman Legends. Quoi,
ou le 3, qui est, ou de l'Homme Avoc, qui est un super jeu avec beaucoup d'humour, que je conseille à tout le monde. Mais là, il est tellement vieillot à faire qu'un petit rafraîchissement lui ferait pas de mal.
Ouais, mais Rayman 3, il est en 3D.
Mm. Oui, effectivement.
Tu vois, c'est-à-dire que Rayman 1, c'est un jeu... en 2D, tu peux refaire en 3D si tu veux, en gardant la même structure et la même histoire que Rayman 1, en ajoutant des éléments supplémentaires. Ou sinon, parce que si tu veux partir après sur les remakes, bah dans ce cas, tu peux aller sur Rayman 2 The Great Escape, Rayman 3 également. Et moi, à la limite, j'aurais préféré un nouveau Rayman, tout simplement. C'est-à-dire qu'ils ont fait Rayman Origins.
Mais moi, je voulais un Rayman en 3D, bordel, vous faites chier Ubisoft, en fait, là. Moi, je voulais un vrai nouveau Rayman en 3D. C'est bon, il y a les épisodes 2D, maintenant, on passe à la 3D, quoi. Et franchement, alors, après, j'espère secrètement que ce jeu-là, il est là pour faire du travail préparatoire pour la suite, en fait, que c'est pour créer des assets, etc., et que ça servira plus tard pour faire un vrai épisode, j'espère, en 3D. Enfin.
Bah, surtout que... Quand tu vois le succès qu'a eu Astro Bot, il y a quand même un public pour ces jeux plateforme en 3D encore aujourd'hui. Et mis à part
sur la chez Ubisoft, ils savent le faire en plus. Enfin...
Exactement. Donc moi, je serais pour un épisode aussi, un nouvel épisode en 3D sur ces plateformes-là. Ça peut très bien le faire. On a vu le succès d'Astro Bot. Peut-être que sur Nintendo, ils auront un peu plus de mal vu que c'est un peu les teneurs du genre action plateforme en 3D. Mais en tout cas, sur les plateformes Xbox, PlayStation et même PC, les jeux d'action plateforme en 3D, ça manque cruellement, quoi, mis à part 2-3 exceptions qui ressortent de temps en temps, comme on a pu voir avec Crash 4, qui a d'ailleurs été un échec parce que le jeu est considéré comme beaucoup trop difficile. Je pense que Ubisoft, avec le savoir-faire et puis le talent qu'ils ont aussi sur la création d'environnement, et même visuellement, il faut le dire, c'est que le jeu il est magnifique, il y avait quelque chose à faire d'assez intéressant, en fait.
Parce que là... Honnêtement, au départ, quand je me suis rendu compte que c'était... quand il y a eu un leak, parce qu'il y a eu un leak à l'avance que ça allait parler de Rayman Legends, je me suis dit, oula, un Rayman Legends en 3D, ça va être moche. Le jeu, il sera moins beau que l'original. Quoi. Bah, ils ont réussi à faire quelque chose qui est au moins aussi beau, voire mieux, franchement.
Bah, moi, je dirais qu'il est quand même un peu plus beau, mais c'est surtout grâce aux effets de lumière.
Hein,
les lumières sont très belles.
C'est surtout la lumière, effectivement, grâce au moteur 3D, en fait. Quoi.
C'est ça, voilà. Il y a un truc, il y a un petit cachet en plus. Après, Rayman Legends, encore aujourd'hui, c'est quand même une prouesse artistique assez bluffante, mais on va dire que c'est un autre style. Et là, c'est les effets de lumière qui viennent un peu rajouter un peu de grain à tout ça. Et même les environnements, ils ont l'air quand même un peu plus vivants de ce que j'ai pu voir. Donc. Il y a du travail qui a été fait, mais pourquoi avoir fait ça sur Rayman Legends, en fait ?
Je comprends pas.
Que j'ai l'impression que Rayman Legends, c'est un peu celui qui est le plus aimé, et Rayman Origins, c'est un peu le pestiféré des deux, alors que le premier est tout aussi cool.
Il est très bien.
Ah ouais.
Non, ce que je comprends pas, c'est qu'ils aient pas fait évoluer l'UbiArt, le moteur qui a servi à Rayman Legends, pour le transcender, pour le faire un truc encore plus... qui fait encore plus film d'animation. Trop cher, tu penses ?
Bah attends, le moteur ça fait 15 ans qu'ils n'y ont pas touché, il va falloir remettre
Oui, justement, ils ont mis la fête, c'est ça qui me. Quasiment. Il y a très peu de jeux qui ont utilisé.
Mais parce qu'aucun des jeux qui a utilisé ce moteur n'a marché, Garou. C'est tout. Ouais, c'est des petits jeux très sympas, mais pour Ubisoft, c'est pas des projets intéressants d'un point de vue financier. Non.
Ouais, bah, c'est triste.
Si ça rapportait du pognon, t'inquiète qu'ils en auraient fait des jeux UbiArt, hein, on en aurait bouffé. Hein, c'est. Voilà, c'est tout. Hein. Faut pas chercher midi à 14h, malheureusement. Alors, juste, priorité au direct. LKBD nous informe, notre envoyé spécial à la conférence Xbox qui se déroule en ce moment même, nous informe que la conférence commence. Il nous tiendra au courant des différentes annonces. Hein. Donc, LKBD, bah, toujours présent.
Là, il y a un petit gameplay de Gear of War.
Allez, on enchaîne.
Alors, tu vas nous parler de Resident Evil Code Veronica. Enfin, Véronica plutôt, parce que c'est Véronica qui l'appelle maintenant.
Oui, Alors, parce que le titre a changé, du coup, ce n'est plus Resident Evil Code Veronica, c'est maintenant, pour le remake, Resident Evil Veronica. Et autant vous dire que je suis heureux. Je suis heureux. Pourquoi ? Parce que... Alors, il faut savoir que Veronica, c'est peut-être mon épisode préféré de la série.
Moi aussi.
Avec le 1.
Ouais.
Alors, je sais que c'est un jeu qui a plein de défauts. Hein. Je le sais.
C'est de la merde. Le jeu d'origine, c'est de la grosse merde.
Voilà, je, ne faites pas attention à ce cet obscur personnage. De toute façon, il aime Resident Evil 4, pourquoi. Donc voilà.
Ouais, quelle obscénité.
C'est pas le seul que j'aime. Mais...
Va te laver la bouche avec du savon. Allez.
Non, mais ce qui est bien avec le remake, au moins, c'est que je me dis.
Ils peuvent corriger les défauts. Quel est le défaut
On aura un vrai Resident Evil jouable sur Code Veronica, et puis on n'aura plus à se retaper l'ancienne version si on veut se le refaire, quoi.
Qu'est-ce qui t'a pas plu dans ce jeu-là ?
Non, mais après, il y a des défauts. Il y a plein d'allers-retours dans Code Veronica.
Oui,
c'est le jeu qui aime le plus le backtracking. Et si t'aimes pas ça, ben, tu vas passer un très mauvais moment. Et il y a un gros défaut de design. Je rappelle quand même qu'il y a un soft clock à un moment donné où si t'as passé une munition dans l'avion du tyran, t'es bon pour recommencer le jeu.
Ouais. Et aussi,
il y a même
le
une clé
design...
que si tu l'oublies dans le coffre dans le premier niveau et que tu arrives de l'autre côté, là, quand tu prends l'avion, c'est mort. Tu peux pas avancer, t'es obligé de recommencer aussi.
Et aussi, même en termes de chara-design, le jeu il est horrible. Hein.
Non, non, alors ça je suis pas du tout d'accord.
Si. Attends.
Non,
est-ce que tu te rappelles
merde,
des espèces
désolé,
de tyrans
arrête.
Qui s'appellent, dans ce jeu-là, s'appellent les Bonzer Snatch. C'est des espèces de gluants mauves, jaunes fluo, dégueulasses.
Je m'en rappelle.
Et je lui dis, qu'est-ce que ça fait dans Resident Evil?
En fait, on dirait justement.
Non mais c'est dégueulasse, mais on dirait plus un truc de dessin
même
animé.
Le tyran qu'il y a dans le jeu, il est super stylé et tout, enfin bon, bref.
Le tyran, ouais, mais les autres, les ennemis là, les Bandersnatch, ils sont horribles. Regardez les images sur Google Docs du Bandersnatch de Code Veronica, ça n'a rien à foutre dans Resident Evil. Le truc, il est plus drôle que flippant, en fait.
En tout cas, donc, Capcom a diffusé un trailer
qui envoie du pâté.
Jeu. Alors, pour le coup... avec un bel accent français. parce que je rappelle que Umbrella, ils ont des locaux à Paris, que ça commence dans Code Veronica à Paris, normalement. Enfin,
le préquel
commence à Paris, normalement, voilà. Et voilà. Donc, du coup, ils ont complètement changé... c'est là que tu vois que moi, je suis vachement intéressé, parce que dès le début du jeu, tu vois qu'ils ont tout changé, en fait. Il n'y avait pas cette intro-là dans le jeu. Il n'y avait même pas une cinématique qui faisait ça, en fait.
Non, pas du tout. Tu commençais dans les locaux d'Umbrella et tu avais Claire qui se faisait courser par des agents de sécurité, justement, d'Umbrella.
Elle finissait en taule directement... sur l'île, ouais.
C'est ça.
Voilà. Et après, tu commences directement sur l'île. Et
tu
avais même un plan
passe,
séquence
en fait,
avec... Enfin, tu avais un plan avec un hélicoptère qui tirait dans les vitres et tout. C'était... Pour l'époque, la cinématique était superbe. Là, cette cinématique-là, ce personnage-là, même la vieille dame qui accueille Claire Redfield, on ne la voyait pas du tout dans le jeu d'origine.
Ouais.
Et ça, c'est un truc cool parce que je me dis peut-être qu'ils ont rajouté des portions de scénario supplémentaires qui viennent faire un peu le lien et la jonction. Et ça sera peut-être moins abrupt de décoffrage de commencer par cette partie-là.
Puis j'ai l'impression qu'ils ont amélioré le moteur parce que ça a l'air un peu plus fin que sur Requiem.
Bah, en fait, le truc avec le RE Engine, c'est que je trouve que c'est un des plus beaux moteurs de jeu. Quand tu fais des jeux de nuit avec des éclairages, franchement, ce qu'ils arrivent à faire, c'est incroyable. Le seul défaut de ce moteur en contrepartie pour avoir un jeu aussi beau, c'est que c'est très statique en fait. Tu ne peux pas avoir des interactions avec l'environnement en contrepartie d'un jeu visuellement très beau. Voilà,
tu peux lancer une roquette sur un meuble, le meuble il bougera pas. Hein,
voilà. Même sur une bouteille, de bière qui traîne, va pas se casser quoi.
Voilà. Donc c'est le problème du moteur. Après, il est connu.
Ouais.
Après, dans les Resident Evil, je trouve que ça passe. C'est pas des jeux.
Oui. Bah, c'est ça. C'est... Le design du jeu ne t'incite pas à explorer l'environnement, à exploiter tout ce qui est chaises, tables, pour te protéger, ou même te créer un chemin alternatif, on va dire. Resident Evil, c'est très codifié. Et c'est pas ça qui est le plus dérangeant. C'est juste un petit peu dommage d'avoir quelque chose d'aussi statique. Mais c'est vrai qu'en contrepartie, par exemple, quand tu vois même. Resident Evil 2, que j'ai refait récemment, quand tu commences le début dans Raccoon City, sous la nuit, avec ces phares qui éclairent la ville et ces lampadaires, enfin, tu te dis, on se prend quand même une claque aujourd'hui, alors que c'est un jeu qui date de 2019. Hein.
Alors, la question, c'est le jeu sera-t-il à la première ou à la troisième personne ? Le trailer est la première personne, mais on sait que Capcom, ils sont capables de te faire un passage à la première personne puis de passer à la troisième ensuite. Donc voilà.
Comme bah, Requiem,
ils ont fait ça. Requiem aussi, ils ont fait. Il y avait deux façons de jouer.
Ouais, mais Resident Evil Requiem, tu commençais avec une phase de cauchemar avec Jill Valentine dans son appartement, et tu l'as joué en vue FPS, et après tout le jeu était en vue TPS. Moi, personnellement, j'ai une petite préférence pour le TPS.
Ouais.
Après, on verra bien, mais si ils ont choisi de mettre les deux possibilités comme pour Resident Evil 9, pourquoi pas ? Parce que maintenant, on sait qu'ils sont capables de le faire et puis qu'ils
maîtrisent
déjà
les
fait,
deux
donc,
en plus. Donc,
Ouais, ça va bon, le faire, il va être bon.
En tout cas, on espère que ce remake mettra tout le monde d'accord, pour le coup.
Il y a une fenêtre de sortie, d'ailleurs.
Ceux qui...
2027.
Allez, ouais, 2027. On espère qu'il contentera ceux qui voulaient juste une revisite du jeu et ceux qui veulent aussi que, quand même, ça corrige les gros défauts qu'avait l'original. Moi, vu l'historique de Capcom sur la franchise ces dernières années, je suis confiant. Voilà.
Ah, attention, fais attention qu'ils ne nous fassent pas une Resident Evil 3 remake quand même. Hein.
Bah, le problème de Resident Evil 3, c'est... le jeu n'est pas fondamentalement mauvais à TH. Le problème, c'est qu'ils ont coupé un bout, quoi.
Un très gros bout, mais surtout que...
D'un jeu qui n'était pas déjà très long en plus.
c'est ça, mais en fait, pour moi, ce qui est dommage, c'est que le jeu d'origine sur PlayStation 1 avait beaucoup plus de rejouabilité que le remake. Et surtout, le remake, pour moi, en fait, Resident Evil 3 remake, c'est peut-être le Resident Evil avec le meilleur gameplay. Mais le truc, il se finit tellement vite que t'es déçu, en fait. Parce que tu te dis, avec le gameplay de Jill Valentine, son système d'esquive, la maîtrise du personnage, parce que le personnage, il est ni trop lent, ni trop rapide, et ils ont trouvé, pour moi, la symbiose parfaite, et tu te dis, ah, déjà fini. Et en fait, moi, j'aurais préféré que le jeu, on mette tout ce qu'il y a dans l'original, et surtout que, comme dans l'original, en fait, quand tu lances une nouvelle run, t'as le droit à des nouvelles portions de la ville à explorer, et que tu dois aussi choisir aussi ton routing par rapport à ce que tu as envie de faire, notamment si tu veux faire du speedrun et tout ça. Alors que là, non, ça sera toujours du début à la fin exactement la même chose. La seule chose qui va changer, ça va être des ennemis plus résistants et on va te mettre des ennemis beaucoup plus forts dès le début. Et voilà, c'est pas grand-chose. Et moi, je trouve ça dommage quand tu fais le remake d'un jeu qui proposait autant de possibilités de rejouer à l'original où tu pouvais visiter des lieux différents en fonction des runs et de la seed que tu avais. Et que là, ils ont même pas pris ça en compte et c'est un petit peu dommage.
Le truc, c'est qu'après, Code Veronica, pour le coup, c'est un jeu qui avait une structure très classique, en fait. Donc, oui, à adapter, je veux dire, normalement, on a vu ce qu'ils ont fait sur Resident Evil 2, ils savent faire, quoi.
Par contre, les gars, s'il vous plaît, le level design, parce que le début du jeu, là, quand tu commences dans la prison, tu dois aller jusqu'au manoir, puis récupérer un objet pour revenir jusqu'à la prison. Évitez de faire des allers-retours comme ça qui ne servent à rien, s'il vous plaît. Quoi. C'était le truc pour moi qui plombait le jeu, c'était son rythme.
Ok, bon, on va passer à la suite.
Sword Legend.
Tout à fait. Alors, ça pour le coup, c'est un jeu, je l'ai mis principalement parce que c'est un des rares jeux qui n'a fait que du gameplay. Et qui est plutôt bien fichu en plus. Donc, Swords Legend, tout simplement, c'est un Souls-like, ambiance mythologie chinoise. Alors, le jeu, techniquement, il n'y a rien à dire, c'est très solide. Juste, je lui reprocherais peut-être un certain manque de punch, on va dire, c'est un manque d'impact sur les coups, en fait. Bon, après, le boss, c'est un tapis volant, donc c'est un peu compliqué.
c'est original, par contre. Ça, on peut
Non, mais la direction artistique, moi, je suis amoureux. Enfin, c'est très coloré. On est vraiment dans des ambiances, pour le coup, qui diffèrent de ce qu'on a l'habitude de voir dans les jeux From Software, où c'est tout le temps sombre, gris, oh mon Dieu. Enfin, après, il y a des passages colorés des fois quand même dans les jeux From Software, quand même. Mais là,
ouais,
c'est
mais là,
vraiment...
Tu sens que ce passage-là, ils l'ont choisi parce que le boss, il s'y prête bien pour montrer les différentes mécaniques de gameplay.
Ouais.
Et surtout, visuellement, à la fin, il te fait quand même un feu d'artifice et ils sont là pour te dire « Regardez ce qu'on sait faire, on peut Exactement. Vous en mettre plein la gueule aussi. » Donc là, c'est un peu un amuse-bouche, un amuse-gueule. Et comme tu le dis, il faudra voir aussi sur le long terme les impacts des ennemis, si il y a un réel poids, si la physique est bonne et tout. Parce que les jeux From Software, il y a quand même une satisfaction à faire des backstabs aux ennemis.
Ouais,
tu vois,
non, mais même quand tu domes un coup en pleine face, tu les sens les coups. Quoi. Enfin, des fois, tu déstabilises la posture de l'adversaire, etc. Là, tu as un peu l'impression de taper dans du vide. Alors, encore une fois, c'est un tapis sur lequel il tape, donc c'est un peu compliqué de rendre l'impact des coups. Ah, par contre, un truc que j'ai kiffé, c'est le fait qu'il y ait des invocations, etc. Et ça a l'air super stylé. Quoi.
Surtout que l'invocation qu'il utilise à un moment, l'espèce de bonhomme en pierre, c'est pour se protéger des flammes. Et s'il y a des mécaniques comme ça dans le jeu pour s'aider à se protéger ou même à avoir des possibilités soit offensives, soit défensives, moi je me dis, ouais, il y a peut-être moyen de faire un truc assez chouette. J'ai hâte d'en voir plus. En plus de ça, bah, comme tu l'as dit, c'est une mythologie qu'on voit pas souvent trop dans le jeu vidéo. Bon, maintenant, je pense qu'on va en voir de plus en plus. Hein,
oui, parce que les studios chinois s'exportent de plus en plus à l'étranger. Donc, voilà.
Exactement. Et ils sont quand même assez agressifs en termes de propositions, même si pour le moment, on sent qu'ils aiment beaucoup les Souls-like.
Ouais.
Après, est-ce qu'on les verra sur des RPG, d'autres types de jeux, des jeux d'action ça faudra voir, mais en tout cas sur le moment ils ont décidé de s'attaquer au marché et directement en concurrence From Software, quoi.
Donc voilà, c'est Swords of Legend, il n'y a pas de date pour le moment, par contre ils ont juste dit qu'il fallait wishlist le jeu, donc si ça vous intéresse, allez le wishlister, n'est-ce pas? Ah oui, en fait Resident Evil Code Veronica, j'ai oublié de le préciser, ce sera dispo sur PC, Xbox Series, Switch 2 et PS5, voilà. Et pareil pour ce jeu-là.
Allez, on passe à 1666 Amsterdam, le retour de Patrice Désilets.
Patrice Désilets revient d'entre les morts, incroyable. Le gars avait disparu, on ne sait pas où il était. Et ben il bossait. C'est incroyable. Donc ça y est, Patrice Désilets revient. Donc Patrice Désilets, je le rappelle, l'un des créateurs d'Assassin's Creed, n'est-ce pas, hein, enfin, la tête pensante, on va dire, des deux premiers Assassin's Creed en tout cas. 1666 Amsterdam, c'est un projet un peu spécial quand même, parce que c'est un projet qu'il avait commencé il y a longtemps et il s'était fait déposséder de la licence par Ubisoft qui avait racheté son studio, si je me souviens bien.
Oui, c'était ça. Ouais.
Et du coup, il a dû lutter juridiquement avec Ubisoft pour récupérer la licence et recommencer tout de zéro, quoi.
Ah ouais, la galère.
Comme LKBD dit aussi, tête pensante de Prince of Persia, Son of Time,
oui,
également.
Oui, effectivement. C'est bien de le préciser. Donc, le gars a quand même
un beau CV,
un bon petit CV, quoi. Ça fait 6 ans, du coup, qu'il a recommencé le dev. Et donc, ça y est, le jeu va sortir. Alors, en accès anticipé cette année, par contre. Donc, ça veut dire qu'il y a des petits problèmes dessous, je pense, quand même. Après 6 ans, ça peut se comprendre, cela dit. C'est un studio de 70 personnes qui a bossé sur ce projet. Il faut savoir que donc, ça va parler de la sorcellerie, des sorcières de Salem, etc., à Amsterdam, donc. On visitera 3 époques, 1666, 1999 et le présent. Voilà. Alors, il faut savoir qu'il y a une démo. Cela dit, je tiens à vous avertir, la démo, je ne suis pas certain qu'elle soit représentative du produit final. Pourquoi ? Parce qu'a priori, de ce que je vois de la démo, bah c'est l'intro du jeu, en fait. Et c'est super linéaire, narratif, tout ce que tu veux. C'est-à-dire que le jeu, il veut que tu fasses... C'est limite un film interactif. Et il n'y a pas vraiment de gameplay, quoi. Tu suis surtout l'intro, l'histoire, etc. Je pense pas que ce soit représentatif du produit final, encore une fois, parce que ce qu'on voit dans le trailer quand même, c'est qu'a priori il y a des environnements un peu ouverts et tout. Alors je pense pas que ce sera un vrai monde ouvert, parce que vu que c'est un studio de 70 personnes quand même, je pense que ce sera plus des petites zones ouvertes, etc. Mais a priori, moi, ce que j'ai vu du trailer et ce qu'il y a dans la démo, ben, ça correspond pas trop à ce qu'on voit dans le trailer. Donc bon, je pense que c'est juste l'intro et que faudra pas se fier à ce qu'il y a dans l'intro pour juger le jeu sur ce qu'il a proposé, quoi, en fait.
Parce que le personnage principal, elle a quand même l'air d'avoir des pouvoirs de l'éviter, ou au moins de se déplacer rapidement dans les zones. Donc je pense que ça sera quand même un jeu semi-monde ouvert, peut-être, avec des environnements assez grands pour qu'on puisse se déplacer d'un bout à l'autre de la map. Et c'est vrai que ouais, c'est dommage de ne pas faire une démo qui représente le jeu final avec le gameplay, et que on ait droit à une phase une phase narrative dans un truc où on est là justement pour tester les différentes mécaniques.
Après, en termes d'ambiance et de narration, c'est super, hein, par contre, vraiment la démo en termes d'ambiance, elle est en béton armé, quoi. Donc si vous voulez une petite expérience narrative, ça peut être sympa de la faire.
Après, ouais, mais en plus de ça, c'est que le jeu, il est quand même assez beau. Et comme la plupart des créatifs, ils ont certains quand même mimiques qu'ils aiment bien remettre dans leurs anciens jeux. Et comme on l'a dit, bah, Patrice Désilets, grand architecte du premier Assassin's Creed, bah là, on reconnaît tout de suite directement l'environnement avec la ville, les PNJ, leur façon de marcher et tout. Et c'est assez marrant, en fait, quand tu revois les différences entre des jeux, des fois, qui n'ont rien à voir, mais quand c'est le même créateur, il y a plusieurs éléments qui reviennent d'un jeu à l'autre, et tu as l'impression que c'est un peu une obsession qu'ils ont au fond d'eux. Et on peut citer ça, par exemple, avec Fumito Ueda, avec Hideo Kojima. Et ils ont leur petite patte à eux qui font que tu reconnais que c'est un mec de ce studio-là qui bosse. Et puis, Patrice Izillet, ça fait un petit moment en fait, qu'il était un peu mis sur la sellette. Bah, je suis content qu'il puisse revenir sur un projet comme ça. Et surtout qu'on puisse avoir, voir de quoi il est capable vraiment. En fait.
Ah, puis ça faisait plaisir de le voir sur scène. Enfin, tu voyais qu'il y avait beaucoup d'émotions quand même. Hein, que tu sens que le gars...
Il revient de loin. Hein.
Il revient de très très loin. Et on ne remercie pas Ubisoft de lui avoir fait ça, quoi. Voilà, voilà. Parce qu'ils ont quand même été salauds avec lui. Hein. Vraiment, ils l'ont traité comme de la merde. Enfin, c'est...
Bah, voilà. Surtout que, comme tu l'as dit, le mec, il aura créé Prince of Persia, Les Sables du Temps, avec un gameplay quand même assez révolutionnaire pour l'époque, avec la mécanique de constamment pouvoir revenir dans les 8 dernières secondes du jeu. Après, il te fait Assassin's Creed. Et
qui est la machinerie d'Ubisoft, hein, rappelons-le quand même. Hein.
encore,
je suis pas sûr que
ouais.
Ubisoft sera encore là s'il n'y avait pas eu Assassin's Creed. Hein. Donc,
C'est ça. Et puis après, le mec, il part d'Ubisoft. Son studio se fait racheter par Ubisoft et il se fait encore dégager. Tu vois, on dirait que le mec, je sais pas ce qu'il aura fait ou si Yves Guillemot, il a une dent contre lui personnellement, mais en tout cas, il y a un truc entre eux. Quoi.
Ouais, il y a quelque chose, c'est sûr. Allez, on va passer à Crossfire.
Alors, ça. Honnêtement, je pensais pas le dire un jour. Surtout que c'est un TPS, mais c'est probablement le jeu qui me hype le plus dans tout ce que j'ai vu. Alors, Crossfire, qu'est-ce que c'est ? Crossfire, c'est un TPS narratif, solo, avec une technique de fou, hein, je vous laisse admirer le trailer, c'est juste
ouais, voilà, c'est très bon.
Bienvenue à la next gen. Les effets de lumière et tout, ils sont incroyables. Et c'est fait par un studio qui s'appelle That's No Moon. Et quand je vais vous dire les gens qui composent ce studio, vous allez reconnaître des trucs. C'est-à-dire que notamment le directeur du jeu, par exemple. Il a bossé, il a été lead designer sur un petit jeu qui s'appelle The Last of Us. Voilà. Et a priori, les gens, les autres personnes du studio qui bossent sur ce jeu, elles ont ce genre de CV-là, quoi. Donc, je le disais, c'est un TPS 100% solo. On y joue deux mercenaires qui bossent pour des organisations qui sont antagonistes. Et qui d'ailleurs, au début du jeu, visiblement, sont à deux doigts de s'écorcher avec des couteaux, mais qui, par la force des choses et des événements qui vont survenir, vont devoir coopérer ensemble, tout simplement. Moi, ce qui m'a attiré, déjà, c'est que... Alors, le jeu, il est magnifique. Ensuite, le jeu, il a très visiblement un côté fantastique. C'est-à-dire que les ennemis qu'on voit dans le jeu, on voit qu'ils sont contrôlés par une espèce de... Je sais pas, une espèce d'entité éthérée, machin. Enfin, c'est très bizarre.
On dirait des sortes de fantômes, quoi.
Voilà, c'est ça.
À des moments pour te surprendre. Et ça, ouais, le fait qu'il rajoute aussi un côté fantastique à l'aventure, bah, moi, je trouve ça aussi quand même assez intéressant. Et comme tu le dis, ouais, le jeu, il est très, très beau visuellement. Les animations. Et là, enfin, tu dis, ouais, bah, la next-gen, enfin, ça commence, quoi. Vous avez mis du temps, quoi, les gars.
Il était temps, ouais, c'est sûr.
En plus, tout ce qu'on voit de la partie gameplay du jeu, tu sens qu'ils ont le souci du détail et qu'on n'est pas forcément là pour faire un TPS bourrin. Notamment, ils insistent beaucoup, même dans les interviews que j'ai vues, sur la partie couverture. C'est-à-dire que le travail des animations qu'ils ont fait sur la couverture, c'est incroyable. Notamment, il y a des moments dans le trailer où on voit qu'il se déplace dans une espèce de vallée où il y a des cailloux un peu partout. Et tu vois que, peu importe la taille et la forme des cailloux, le personnage et les animations, elles s'adaptent automatiquement. Il se déplace de manière naturelle dans des environnements qui sont très accidentés, en fait. Et tu te dis, le travail qui a dû être fait sur les animations, il est dingos. Un autre souci du détail que moi, j'ai beaucoup apprécié, c'est par exemple, dans n'importe quel autre TPS, on vous aurait mis un réticule de visée avec une croix, et t'aurais visé et t'aurais tiré. Là, tu sens qu'ils ont envie quand même de garder un côté un peu immersif. Et du coup, le réticule de visée, ça ne va pas être une croix, ça va être la lunette de visée du fusil qui est utilisé par ton personnage, en fait. Là, on le voit dans ce passage-là, notamment. Il y a un côté, t'es en TPS, mais en même temps, t'es en FPS parce que tu vois juste à travers la. Ils mettent un voile noir tout autour de l'écran, en fait, et tu vois juste au centre de l'écran avec la lunette de visée que t'es en train d'utiliser. Et moi, je trouve ça en termes d'immersion, c'est tip-top, quoi. C'est malin, c'est vraiment bien pensé. Et d'une manière générale, les expressions des personnages, le jeu d'acteur, etc., dans le trailer et tout, ça a l'air ultra chiadé, et honnêtement, c'est probablement le jeu qui m'a le plus hypé sur tout ce qu'on a vu là, quoi. Voilà.
Après, est-ce que l'histoire sera intéressante, ça, c'est... Faut voir, quoi.
Disons que vu le CV des gens, j'ai confiance.
Moi, j'ai quand même une question par rapport à ça. Vous vous souvenez, à l'époque, on nous avait présenté un jeu qui s'appelait Crossfire X ?
Oui. Alors, c'est la même licence, parce qu'en fait, il faut savoir que c'est financé par NetEase, en fait. NetEase, qui est la boîte qui gère Crossfire, la licence Crossfire, hein, qui est une vieille licence, qui est à la base inspirée de Counter-Strike. Et il faut savoir que quand ils ont eu les financements de NetEase, c'est le studio qui a proposé à NetEase, parce qu'en fait, Crossfire, il y avait aussi un MMO, etc. Et il y a du lore, en fait, dans leur univers, et ça se déroule dans le même univers que Crossfire.
Ouais, parce qu'en fait, à la base, Crossfire X était un jeu à la fois multijoueur, ouais. Et la campagne solo devait être dirigée par Remedy, mais il y a eu des couacs avec ça, et je voulais juste savoir si c'était la même licence ou bien si c'était...
Remedy, par contre, je sais pas, pour le coup. Ça, je sais pas.
Ouais,
si c'était NetEase, oui. Si c'était NetEase, oui.
Remedy devait faire eux juste la campagne solo du jeu. Et, mais sauf que ça a été annulé. Du coup, Remedy ne travaille plus dessus et le multijoueur a été annulé. Mais là, du coup, il revient sous juste le jeu Crossfire, quoi.
Voilà. Il m'apprend un truc.
Donc, bon.
Bah, en tout cas, ça a l'air chouette. Petit TPS comme ça avec... Ouais. Ce truc aussi très Sony où tu as deux personnages qui vont constamment parler l'un avec l'autre. Moi, je trouve que ça, quand c'est bien fait, ça rajoute un peu de narration, un peu de vivant aussi. Quand c'est fait de cette manière-là. Après, on peut aussi citer Spec Ops The Line, où tu avais des compagnons tout le temps en permanence. Et vraiment, quand c'est fait de manière bien introduite dans le jeu, ça peut être cool. Pas comme dans God of War avec Atreus qui te spoil les énigmes, quoi. Là, non.
Alors, pour répondre à LKBD, moi, du point de vue gameplay, je m'attends à quelque chose de classique, mais de pas transcendant non plus. C'est, je veux dire, Last of Us, c'est très bien, hein, ça fonctionne, mais c'est pas non plus le gameplay le plus palpitant du jeu vidéo, quoi.
Oui, c'est le truc qui se laisse jouer. Il a pas trop de défauts, mais il n'est pas non plus.
Voilà,
il n'excelle pas dans
scolaire.
C'est-à-dire que. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire qu'il fait le truc bien, c'est simple, efficace. Il en fait pas trop. Tu vois, si tu cherches un jeu, par exemple, un TPS, purement TPS, rien que sur la génération PS3 360, tu peux te citer Gears of War, Vanquish et Max Payne 3 qui lui mettent une raclée. Mais on va dire que dans ce qui fait The Last of Us, dans son côté narratif et jeu assez lent quand même, dans ses intentions de gameplay, il fait plutôt bien le job, quoi. Mais il est pas non plus dans l'excellence.
Ouais. D'ailleurs, LKBD, si tu as des news de la conférence Xbox, n'hésite pas. Allez, on enchaîne.
Ouais, avec Strangers and Heaven, qui ressuscite les morts.
Alors, au départ, moi, j'avais pas forcément l'intention de parler du trailer en lui-même, parce que honnêtement, on n'a pas grand-chose en plus par rapport au jeu.
Moi, je sais juste que le jeu, je l'attends énormément.
Voilà, moi aussi, j'attends énormément le jeu. Par contre, il y a un truc qui me dérange dans ce trailer, c'est qu'il y a un mort.
Ouais. Et il est très connu en plus.
Ouais. C'est-à-dire qu'il y a Tupac dans le trailer.
Et ouais. Et franchement, je ne m'attendais pas à voir Tupac Shakur dans un jeu vidéo aujourd'hui, quoi.
Et tu dis, bon. Alors,
mais en plus de ça, parce qu'il y a un truc intéressant, c'est que la première fois que j'ai vu la réaction, moi, enfin quand j'ai vu le personnage, j'ai rigolé, j'ai dit, hey, ils ont mis Tupac Shakur, mais je pensais pas que c'était lui, je pensais que c'était juste un mec qui lui ressemblait, c'était une coïncidence en fait. Et en fait, non, c'était vraiment lui, c'était vraiment Tupac Shakur quoi. Et j'ai fait, ah d'accord, donc maintenant en fait, on laisse plus les morts se reposer quoi. C'est-à-dire que là, on a un stade où, même quand t'es mort, et bah, tu reviens et tais-toi en fait.
Ça sort de nulle part, hein, surtout. Hein. C'était le truc.
Non, mais déjà, en y plus, avait... ouais, il y avait déjà Snoop Dogg, donc quel intérêt. Ouais,
voilà.
Ça, en plus,
mais Snoop Dogg, lui, c'est une personne qui est vivante,
voilà,
qui
il peut décider,
son accord.
Tu vois, et,
c'est ça, tu vois.
Exactement.
Parce qu'on va me dire, oui, mais peut-être que les enfants, ils ont donné leur accord, mais en fait, on t'a pas demandé. Enfin, les enfants, ils ont pas décidé pour leur père, quoi, en fait. Le père, ouais, il est mort, vous le laissez tranquille, quoi.
Exactement.
Ouais, mais, non, mais même, enfin.
Et puis, ça va apporter quoi au jeu, en plus? À part.
C'est ça, c'est-à-dire voilà. Que s'il fallait absolument. Un personnage black comme ça à mettre dans ton jeu, bah, il y avait pas un petit jeune rappeur qui perce aux États-Unis là, que tu aurais pu mettre dans ton jeu au lieu de mettre Tupac Shakur. Enfin, à la limite, tu aurais pu mettre un autre personnage comme ça que tu voudrais représenter. Je sais pas, c'est juste une idée quoi.
Ouais, c'est sûr.
Parce que en fait, moi, Snoop Dogg déjà, je me suis dit, ok, qu'est-ce qu'il vient faire dans le projet?
Oui, déjà,
après, c'est Snoop, Snoop Dogg, je sais qu'il apparaît dans pas mal de jeux vidéo et de films. Je me suis dit, bon, peut-être qu'il a voulu se faire un petit kiff, pourquoi pas. Si les scénaristes ont pensé le jeu pour vouloir mettre Snoop Dogg à l'intérieur, bah écoute, ça peut être intéressant. Hein.
Bah après, de toute façon, comme le studio de Ryuga Gotoku, ils aiment bien mettre des acteurs, qu'ils soient japonais ou autres, tu vois. Ça me surprend pas plus que ça en fait. C'est dans le délire du studio quoi. C'est juste que par rapport au jeu, bon, qu'est-ce que vient foutre Tupac dans les années 30 au Japon quoi, tu vois.
Ouais, c'est ça. Mais
enfin Tupac et Snoop Dogg d'ailleurs. Enfin, c'est
oui.
Et deux.
C'est exactement. Enfin bon après, c'est comme j'ai dit, si vous fallait absolument un mec, absolument un deuxième noir à mettre dans le jeu. Qui en plus de ça est connu et qui fasse du rap, bah, je sais pas en fait aujourd'hui vous avez des mecs je sais pas comme Drake, Kendrick Lamar.
Après est-ce que les jeunes connaissent Tupac? Snoop Dogg oui il est vivant mais Tupac est mort dans les années 90. Est-ce que
je pense que oui quand même. Ça reste quand même la référence du gangsta rap.
Ouais.
Tu peux voir même dans les jeux vidéo par exemple si tu prends en compte Grand Theft Auto dans San Andreas. Tupac est présent musicalement dans le jeu via la radio. C'est un jeu qui se passe dans les années 80, dans l'année 92, donc on va dire que c'est cohérent. Mais même dans GTA V, tu as sur la playlist de radio Welcome to Los Santos, non, Radio Los Santos, un truc comme ça, la radio hip-hop du jeu, bah tu as quand même des passages de Tupac et c'est la radio West Coast Classic, pardon, parce qu'il passe les anciens titres. Bah tu as notamment Dr. Dre. Snoop Dogg, tout ça. Et tu as aussi Tupac avec la musique Ambition of a Rider. Voilà.
Ah, tu connais bien. Connais la liste des chansons de la radio dans GTA V.
Bah, parce que je l'ai fait récemment et j'avais carrément oublié qu'il y avait Tupac dans la playlist.
Je l'ai fait et j'ai pas entendu Tupac, alors j'ai peut-être pas mis la bonne radio, sûrement.
Il y en a plusieurs, je rappelle les radios. Hein, donc,
oui,
voilà.
Oui,
en tout cas, comme dit très bien ce cher Kiltia, dans le monde capitaliste, les morts n'ont pas le droit au repos. Pognon, pognon, pognon. Voilà.
Pognon, pognon, ouais.
et c'est la phrase qui résume tout, quoi.
Priorité au direct, messieurs, dames. En direct de la conférence Xbox, LKBD nous informe que Wulong 2 a été annoncé. On espère qu'il sera un peu mieux cher dès que le 1.
Ah, c'était quoi le défaut du 1
et
il avait
on
plein
a
de
deuxième...
défauts de finition, c'était un peu dégueulasse techniquement, enfin bon bref, c'est...
Et on a une deuxième annonce qui concerne aussi Hellblade.
Hellblade.
Alors, il y a juste écrit une annonce pour Hellblade, on ne sait pas ce que c'est, mais voilà.
C'est
Hellblade
un jeu qui s'appelle
Senua,
et voilà, tout ce que je sais, tout ce que j'ai vu.
Non mais après, est-ce que c'est un 3 ou est-ce que c'est un DLC
pour
Hellblade?
Il n'y a pas de chiffre, et comme je ne mets pas le son, je ne vois pas trop. Tu vois,
bah, il nous dit que c'est... lui-même ne sait pas si c'est un nouveau jeu ou un
DLC. Dans la description de la vidéo, il y a marqué que c'est un nouveau jeu d'action-aventure dans l'univers d'Hellblade. Voilà.
D'accord.
Donc a priori, c'est un vrai nouveau jeu. Même si ça ressemble à un DLC.
On peut s'attendre à un jeu quand même visuellement assez beau, parce que Hellblade, je me souviens que ça tabassait quand même pas mal. Hein.
Ouais, c'est très beau.
Allez,
on passe à Virtua Fighter. où on n'a pas su savoir le gameplay, ça allait être quoi, si c'est assez particulier.
Alors, enfin si, il y a des choses qu'on sait quand même, que ce soit en voyant les différents trailers ou en voyant ce qui a été dit sur le jeu dans les interviews. Déjà, ce qu'on sait, c'est que ce nouveau Virtua Fighter, il aura un vrai mode solo. Ils ont notamment consulté des différents personnes pour l'écriture, parce que au-delà de Tsuyoshi Furuta qui est responsable de l'écriture sur la licence Like a Dragon, va y avoir quelques petits invités comme ça qui vont bosser sur le projet, notamment David Hayter qui a bossé sur X-Men et Watchmen, Brad Kane, Ask Dust Falls et Ghost of Tsushima, et enfin Shinji Yamamoto qui entre autres a bossé sur des petits jeux comme Persona, Shin Megami Tensei. Voilà. Donc, ils sont allés chercher des gens qui savent écrire a priori. Et ensuite ce que l'on sait du mode histoire, parce qu'ils vont faire un mode histoire en mode un peu à la Street Fighter, j'ai l'impression. En tout cas, ça a l'air d'être une inspiration, mais je me demande si ça va pas être un truc un peu plus fou que ça, parce que a priori, il y aura vraiment de l'exploration et ce genre de choses. Est-ce qu'on tiendrait pas le vrai successeur à Shenmue? Je ne sais pas.
Bah, on l'a déjà le vrai successeur à Shenmue, c'est Yakuza, non. Like a Dragon.
Non.
Si, si,
non.
Si, 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 si.
Il y a non, pas de, y a pas de non, Shenmue, je suis désolé. Like Shenmue, c'est pas si, du gameplay si, si. Arcade. Je suis désolé, non. Shenmue,
d'accord, mais là,
c'est
là,
un vrai système de combat. Hein, profond, et c'est pas du tout la même. Shenmue, c'est un film de baston chinois. Yakuza, c'est un film de Yakuza, c'est tout, ça n'a rien à voir. Voilà.
D'accord, et tu crois que dans Virtua Fighter, tu vas aller taper dans un cerisier que la feuille tombe pour apprendre faire le coup.
Écoute, c'est peut-être possible.
D'accord, mais ça, j'ai hâte de voir ça.
Parce
et surtout que
dans
Shenmue...
le trailer, il y a des passages, déjà, ça ressemble à Shenmue. Hein. Genre, à un moment donné, il y a une course-poursuite. Tu fais, mais c'est les QTE de Shenmue, quoi, en fait.
Oui, oui, non, mais ok. Mais dans Yakuza aussi, t'as ça, tu vois.
Oui.
Mais par contre, moi, je pense pas que dans ce jeu-là, il y aura des phases d'enquête, ni d'aller parler avec les PNJ. Hein.
Ouais, enfin, les phases d'enquête dans Shenmue, bon.
C'est la majeure partie du jeu. C'est la majeure partie du jeu de Shenmue. La plupart du temps dans Shenmue.
Non, la plupart du temps dans Shenmue, tu glandes au magasin du coup.
Et oui, d'ailleurs, et après, tu cherches, par exemple, dans le premier Shenmue, tu cherches les hommes en noir, mm-hmm. Tu vas discuter avec les PNJ, et après, ils te disent, ah, va voir peut-être là-bas et tout, tu te déplaces, t'interroges les gens, après, il y a des gens qui ont une certaine routine, etc. Et une fois, de temps en temps, tu as un petit combat qui arrive, ou sinon, un QTE.
Quoi qu'il
la
en
plupart
soit,
du temps, dans
ce
Shenmue,
que l'on sait sur Virtua Fighter,
quoi.
C'est que le mode histoire, donc, mélangera des cinématiques, de l'exploration, de la baston, du beat'em up contre plusieurs ennemis, et contre des boss. Au niveau des personnages qui seront présents dans le jeu, il y aura 4 personnages du mode multi qui seront présents dans le jeu de base, dans le mode histoire. Voilà. C'est à peu près tout ce que l'on sait, il me semble.
Et alors, la partie jeu de baston pur, elle sera dedans ou ça sera un autre jeu, en fait? C'est ça que...
Bah, elle sera dedans, évidemment.
Alors, pourquoi ils n'ont pas mis l'accent enfin, sur les deux parties? Parce que là, on...
Non, mais Yaru, t'as vu mon Google Doc? Il y a une vidéo entière de gameplay où tu vois que de la baston.
Ah non, j'ai pas ouvert le Google Doc.
Pourquoi ils
n'ont
pas présenté...
Enfin, j'ai vu le Google Doc, mais j'ai pas cliqué sur les...
Ah bah voilà.
Pourquoi ils n'ont pas présenté la vidéo de la baston? C'est parce que là, ils veulent me vendre le jeu à moi, en fait.
Donc...
C'est parce que moi, ils savent très bien que je m'en fous des jeux de baston.
Ah ouais, mais pareil. Pareil, moi, les jeux de baston, rien à foutre, hein.
Moi, je veux me taper contre des mecs dans la rue, puis qu'après j'ai ma petite histoire de vengeance ou je sais pas quoi, que je résous un problème et qu'après il y a le générique de fin et basta. Mais après, si le jeu s'inspire un peu de Shenmue ou même de Yakuza par rapport à sa structure narrative et tout, moi je dis bingo en fait. Je suis extrêmement client de ce genre de jeu là. Après, qu'on aime ou qu'on aime pas, ça c'est à chacun de le dire. Mais si l'histoire est intéressante, s'il y a un peu d'interaction avec les PNJ, si on peut aller faire, je sais pas moi, des activités annexes, ça m'étonnerait qu'ils mettent aussi autant l'accent que dans un Yakuza ou un Shenmue avec tous les mini-jeux.
Bah,
par
c'est
exemple,
surtout qu'à côté, ils ont quand même un vrai jeu de baston à gérer, quoi. Donc,
Ouais, voilà. Donc, mais bon, moi je me dis, ouais, pourquoi pas, ça peut être cool, en fait. Moi, je jouerais à Virtua Fighter avec, s'il y a un bon mode solo, avec une bonne histoire, un bon système de combat. Et j'ai hâte de voir ça, quoi.
Ouais, alors, c'est plus la partie jeu de combat qui m'intéresse que la partie solo. Mais bon.
Ouais, mais toi, t'es.
Mais c'était un joueur t'es de, un jeu de combat, toi, t'es déjà perdu, de toute façon. C'est... vous, toi et KFK, vous êtes irrécupérables.
C'est ça.
Non, parce que j'aurais préféré qu'il. Enfin, ouais. C'est. Bon. Je trouve que ça. Alors, je suppose que ce mode histoire-là, enfin, ce mode solo, ça va te permettre un peu comme un star de Street Fighter 6 de t'apprendre les mécaniques de combat, justement, pour le jeu de baston. Mais ouais, ouais.
Après, est-ce que les mécaniques, quand t'es en combat beat'em all contre plusieurs ennemis, est-ce que ça sera le même quand t'es
je
en combat?
Je sais pas, mais en tout cas, dans Street, c'est, ça t'apprend les mécaniques dans le jeu aussi, donc je sais pas.
Bah, moi, je pense, c'est pour ça que je te dis que je veux faire référence à Shenmue. Je rappelle quand même, Shenmue, c'est le système de combat de Virtua Fighter.
Ouais, c'est ça.
Et Shenmue, c'est Virtua Fighter, le jeu vidéo, en fait. Hein. Voilà, c'est, ils ont pris des mécaniques de Virtua Fighter et ils ont mis dans Shenmue. et dans Shenmue, t'as des vases de beat'em up. Alors, si c'est comme dans Shenmue, par contre, tu vas en chier, parce que... après, je sais pas s'ils seront plus coulants dans cet épisode, mais je rappelle quand même que dans Shenmue, c'est comme dans Virtua Fighter, c'est-à-dire que les timings, ils sont carrés, quoi. Et si tu fais mal, tu rentres mal tes commandes, etc., le coup il sort pas et tu te fais défoncer la gueule. Hein, donc,
c'est très très exigeant, Virtua Fighter. Hein.
Tout à fait.
Clairement, ça donc, rigole pas.
Moi, c'est pour ça que je dis bah ouais, bah, ça sera comme enchaînement, quoi. Tu devras gérer, t'auras des phases de beat'em up où ça sera les mêmes contrôles que dans un vrai jeu de baston, quoi. Mais il faudra juste savoir gérer, quoi, c'est tout.
Après, en tout cas, on voit quand même que les jeux de baston sur cette génération, ils ont quand même pris un gap graphique. Hein. Mmh. C'est visuellement, c'est ultra joli, quoi. Très détaillé.
Ah, visuellement, le jeu, la partie baston, elle envoie. Hein. Enfin, franchement, les animations, elles sont incroyables.
Ça a toujours été une plaque graphique, hein, de toute façon.
La lumière, c'est un truc de fou. Vraiment, moi, je suis amoureux de ce qu'ils ont fait en termes de visuel, quoi. Enfin, c'est...
Et en plus, ce qui est bien, c'est que Virtua Fighter, c'est une série à peu près correcte avec les arts martiaux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des coups fantaisistes où le mec il vole en l'air et puis il réatterrit. C'est vraiment basé sur des vrais mouvements d'arts martiaux. Ouais. Et tu ne vas pas lancer des boules de feu ou des trucs comme ça.
Non, il n'y a pas de ça.
Et, non, il n'y a pas du tout de ça. C'est vraiment quelque chose qui se veut assez authentique par rapport à la pratique.
Moi, je crois que je jouais Vanessa dans 5. Qui faisait du Valtudo, je crois. C'est une sorte de... Je crois que c'est un art martial brésilien, un truc comme ça.
Et donc, du coup, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que sur l'aspect martial pur du titre, si, comme tu le dis, et peut-être que ça s'inspire un peu plus de Shenmue, j'aimerais bien que, tu vois, par exemple, les vrais combats et tout, qu'on t'apprenne les techniques, un peu comme dans ce qui avait été fait, justement, dans le jeu de Yu Suzuki. C'est-à-dire qu'on va te mettre dans une situation, des fois tu vas te dire « ouais, mais ça n'a rien à voir ». Et en fait, c'est ça qui va te montrer le coup à apprendre, mais pour que tu comprennes en fait la philosophie qu'il y a derrière. Et ça, j'aimerais bien qu'on puisse retrouver ça aussi un peu dans du Virtua Fighter, quoi.
Ouais. Pareil. En tout cas, pour une fois, il y a un jeu de combat qui m'intéresse.
Ah, tu joueras peut-être avec nous et Kafka, du coup.
Ah non, parce que le multi, j'en ai rien à battre pour le coup. Ah. Je suis pas là pour.
On veut tabasser des PNJ, nous. On veut pas tabasser voilà. D'autres mecs en ligne.
Moi, je suis là pour suivre une histoire et taper des PNJ. Je suis pas là pour faire la compète, tout ça. Ça, je laisse à vous. Hein.
C'est pas la compète, ça. C'est pas la compète. On s'amuse, hein. C'est tout. Moi, je fais pas.
Les jeux de combat ne m'amusent pas d'une manière générale. Donc,
ah ouais.
Ah ouais, non, mais moi, les jeux de combat, c'est full OZEF, hein, personnellement. Sauf quand tu mets une histoire derrière. Voilà.
D'accord. Okay. Allez, tu vas nous parler de Final Fantasy VII Révélation, le troisième opus. Enfin,
Attends. Oui. Priorité au direct. Un trailer pour le nouveau Crazy Taxi, je veux voir ça. Et excusez-moi, les gens, parce que là, vraiment...
Ouais, mais est-ce que ça va être une déception ou pas?
Est-ce que ça va être une catastrophe? Est-ce qu'on va voir quelque chose? Oh putain, ça commence mal, les gens. Environnement réaliste. Oh non. Oh, je le sens pas du tout. Ah non, quand même, ils ont fait une petite DA. Ok. Ouais. Bon, bah, c'est Crazy Taxi, quoi, mais... Mais du coup, est-ce que vous allez rajouter des trucs dans le jeu pour justifier le budget que vous avez mis dedans? Bah écoute, ça a l'air d'être Crazy Taxi. Alors je suis pas fan de la D1 parce que je sais pas si vous voyez, mais la voiture, elle fait très cartoon en termes de représentation.
Ouais, bah même les PNJ et tout.
Ouais, mais les environnements, par contre, je trouve qu'ils font réaliste. Je trouve que ça colle pas du tout.
Ouais, bah, en fait, comme dit LKBD, DR un peu à la Fortnite. Hein.
Ah ouais, ouais.
Ça ressemble beaucoup.
Ah ouais, c'est. C'est pas très plaisant. Hein. C'est.
Bon. En fait, il y a un côté un peu. Vallée dérangeante, je dirais.
Ouais, c'est ça.
C'est-à-dire qu'en fait, il y a un côté genre, c'est réaliste, entre guillemets, mais.
Avec les PNJ de
Fortnite. Personnages, les proportions. Les personnages, les proportions, même la ville. Bah en fait. Non, t'as l'impression d'être dans un jeu vidéo avec une DR un peu cartoon. Et du coup, je sais pas, il y a un truc un peu bizarre, quoi.
Ouais, c'est... En tout cas...
Après, faudra voir le prix du jeu.
Bonne
hein.
chance. Et donc, il y aura un DLC pour Doom the Dark Ages aussi, apparemment. Enfin, bon, bref. Et un nouveau jeu Focus. Magician the Devil's Deal. Bon, on verra ça plus tard. Allez, on enchaîne, messieurs. On va
avec
maintenant...
Final Fantasy VII.
Parler ouais, de révélation. Final Fantasy VII révélation. Une des plus grosses attentes de ATH, je suppose.
Ouais, clairement.
T'as fait
clairement.
Les deux premiers, hein, si je me trompe pas.
De long en large et en travers.
D'accord. Et t'attendais celui-là avec impatience.
Bien sûr. Bon, déjà, je peux dire un truc, c'est que le titre, il pue un peu quand même. Hein. Révélation. Moi, je pensais à la base que le titre allait être Requiem.
Moi, j'aurais...
Et dès que j'ai vu Resident Evil, j'ai dit non.
Moi, je pensais que ça allait être Réunion, mais on m'a fait remarquer qu'il y avait un jeu PSP ou Vita, je crois qu'il y avait ce titre.
Ouais,
donc,
bah, le remake de Crisis Core ouais. qui s'appelait Réunion, et du coup, bah, c'est un peu dommage. Quoi.
Parce que Réunion genre, serait bien collé pour le coup.
Ouais, bah, exactement. Parce que là, Révélation, ça fait vraiment titre de jeu générique.
Ça fait titre putaclic. On a des
c'est
révélations.
Ça, quand tu joues au jeu, tu dis. tu joues au jeu, tu dis, mais elle est où la révélation en fait de fou La bombe te dit, ah, c'était ça, tu dis, ah, d'accord. Ouais, bon, bah. Parce que normalement, une révélation, c'est censé remettre en cause ce que tu savais sur la série en fait.
Bah, après, je sais pas ce que tu pourrais nous dire sans spoiler, mais quand tu vois la fin du 1, tu sens qu'ils veulent changer des trucs quand même, quoi. Enfin, c'est.
Oui,
après,
bien sûr.
Je sais pas ce qu'il en est dans le 2, mais voilà.
En fait, ça va être. À la limite, tu vois, moi, c'est pas sur l'aspect histoire que je l'attends le plus, en fait, ce Final Fantasy VII. Parce que moi, vraiment, ce que j'ai kiffé dans le jeu, que ça soit Final Fantasy VII Remake ou Rebirth, c'était vraiment sur les combats. Je trouve ça vraiment génial de pouvoir, tu vois, faire ton équipe, gérer les différents matérias, utiliser les sorts élémentaires contre les ennemis qui sont faibles, avoir une synergie de groupe et d'équipe. Et je trouvais aussi que ça faisait un bon mix entre l'ancien jeu au tour par tour et les jeux, on va dire, plus actuels, modernes, avec cette pause active. Ou sinon, si tu voulais jouer un peu en façon un peu plus beat'em up, tu pouvais aussi. Et tout ce mélange-là, en fait, je trouve que le système de combat de cette trilogie est vraiment ultra solide, en fait. Et moi, le plus grand plaisir que j'ai eu, bah, c'est surtout dans le endgame avec tu vois, les créatures les plus puissantes à affronter, les boss optionnels et tout. Et c'est là où tu sens que Final Fantasy VII, Rebirth et Remake, ils ont quand même un système de gameplay qui est assez complexe. C'est-à-dire que de base, ça peut être un truc qui peut être assez simple à prendre en main. Tu te dis, ok, je vais y jouer comme ça pour m'amuser. Mais si tu veux aller dans les entrailles du jeu et voir à quel point en fait, le truc il a été pensé de manière assez solide, c'est vraiment génial en fait, et c'est plus cette partie là que moi j'attends, plus que bah, pour l'aspect histoire et tout ça, quoi. Parce que Final Fantasy VII, pour moi, c'est un jeu de 97, et on va dire que bah, je suis bien content de revoir Cloud et tout ça, mais c'est pas vraiment l'histoire qui m'intéresse le plus en fait.
Alors, quelques informations quand même par rapport au jeu. Alors déjà, information la plus importante, donc le troisième opus de la trilogie sortira au printemps 2027 en simultané sur PC, PS5, Switch 2, Xbox Series. Chez Sony.
Eh ouais.
Ah putain. Oui. Ah non, mais ça suffisait, quoi, ces conneries là.
Mais oui, c'est... Enfin, là, ils ont bien compris pour le troisième. Ils ont dit, mince, il faut quand même qu'on en vende un petit peu, quoi.
Voilà.
C'est
vu le temps de développement que ça nous a pris de faire cette trilogie, Mais surtout, enfin, de base, c'était quand même assez aberrant de faire une exclusivité pour PlayStation 5.
Non, mais surtout, un jeu, des jeux comme ça qui ont dû leur coûter un bras, quoi, parce que c'est ambitieux comme projet, quoi. Enfin, ils n'ont pas fait des choses à moitié, c'est des vrais nouveaux jeux, quoi. Donc, c'est vraiment des projets qui ont coûté très cher, et faire l'exclusivité Sony, j'ai pas compris, quoi. C'était incompréhensible.
C'est ça.
Du coup, après, entre le premier et le troisième, il se passe combien d'années de développement, en fait ?
Bah, attends, le premier est sorti quand ? Il est sorti pendant le Covid. En 2020, ça aura pris 7 ans, en fait.
7 ans, oh putain. Quand même.
Et donc,
7 ans pour 3 jeux aussi, hein, quand même.
Quelques informations. Déjà, pour ceux qui se posaient des questions, on acquérera le Auvent assez tôt dans le jeu. Le Auvent, je rappelle, c'est notre dirigeable, n'est-ce pas, qui nous permet de nous déplacer sur la carte. Et,
exactement.
Alors, je cite ce qui a été dit dans une interview, on sera libre de voler où on veut. Donc, a priori, on contrôlera vraiment le Auvent.
Je suis trop content.
Autre information, à tout moment, on pourra sauter en parachute du Auvent.
Et ça, c'est plutôt logique, en fait. C'est que, vu que le jeu de base sur PlayStation 1, c'était quand même des plaines avec juste des aplats de couleurs par-dessus, et c'était très plat, il n'y avait pas de volumétrie sur la map. Là, vu comme le level design, il a été fait dans Remake, et surtout dans Rebirth, avec des terrains très extinctés, et plus aussi, par exemple, tout ce qui est montagne et relief et tout ça, ça risque d'être compliqué de pouvoir faire atterrir un vaisseau de cette taille-là partout. Donc, le choix qui a été fait, c'est de sauter en parachute. Et je trouve que c'est quand même un choix plutôt judicieux de leur part, en fait.
Et puis, comme ça permet de se la péter, tu vois. Regarde notre champ de vision. Regarde tout ce que tu vas visiter, comment c'est beau. Hein.
Ouais, oui, oui. Également aussi.
Surtout
quoi.
Que ce qu'on voit du trailer, quand même... les environnements, ils sont hyper variés, c'est luxuriant, enfin, vraiment, c'est très fouillé.
Par contre, pas énormément de différence entre Rebirth et Final Fantasy VII. Hein.
Ah bon ?
Ouais, c'est en termes de graphisme pur, c'est là pour le moment, en fait, j'ai l'impression de voir Rebirth 2.5. Il n'y a pas une énorme évolution par rapport à ça.
Après, ils n'ont jamais promis qu'ils feraient autre chose. Hein, donc
non, je sais, mais bon, c'est intéressant de le souligner quand même.
Oui, tout à fait. Autre information, bon, on s'en doutait, mais c'est toujours utile de le confirmer. Sid et Vincent seront évidemment de la partie. Voilà.
Enfin.
Enfin, oui. On n'espérait plus. Non, parce que les gens désespéraient de ne pas les voir dans le deuxième épisode déjà. Alors, bon.
Mais en fait, tu les vois dans le deuxième épisode, mais ils sont pas jouables, ils t'accompagnent juste. Mais ouais. ils sont. Tu dis, mais venez, je veux jouer avec vous. Ils disent non.
Non. Et les armes seront présentes aussi. Voilà. D'ailleurs, dans le trailer du jeu, j'ai l'impression qu'il y a des nouvelles armes en fait. Parce qu'il y en a, je les ai pas reconnues, quoi. Mais vraiment. Hein. Donc.
Ouais, comme dans le jeu d'origine. Enfin, pas dans le jeu d'origine, mais. Dans Remake, et enfin surtout Rebirth, tu vois des armes que tu ne voyais pas forcément dans Final Fantasy VII de base. Mais moi, ce que je trouve incroyable quand même, c'est que chaque personnage a son propre système de gameplay qui lui est propre. Et notamment, par exemple, moi, dans Rebirth et dans Intergrade sur Remake, mon personnage préféré à jouer, c'est Yuffie, en fait.
D'accord.
Parce que Yuffie, en fait, elle est ultra cheatée. C'est-à-dire qu'elle attaque à distance avec son... une espèce de boomerang qui utilise les éléments, en fait. Et plus tu utilises les éléments de loin, plus, en fait, tu vas accumuler des dégâts. Et elle est ultra rapide, ultra safe, parce qu'elle lance les attaques à distance. Et en fait, pour moi, c'est le personnage le plus craqué du jeu. Yuffie, dans Rebirth, elle est incroyable. Et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec Vincent et surtout Sid. Vu que lui, c'est censé être le chevalier dragon de Final Fantasy VII. Donc, quand même, un personnage assez aérien. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont proposer par rapport à ça. Quoi.
Et dernier point, un gros ajout de gameplay que vous voyez en ce moment à l'écran. Ils vont ajouter un système d'uniforme avec des capacités uniques qui ressemble très, très fortement à un système de job. Mais très, 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 très fortement.
Ouais, bah ça, c'est le truc le plus... Je suis le plus dubitatif parce qu'il y a quand même pas mal de costumes qui sont assez moches. Hein. Que ce soit celui de Cloud, de Barrett.
Le seul que je trouve stylé, c'est celui de Tifa. Le reste.
Ouais, moi aussi, exactement. C'est exactement ce que j'allais dire. Celui de Tifa. Et ça me rappelle un personnage d'un jeu de combat, mais je ne serais plus lequel. mais je trouve que c'est celui qui est le plus réussi, en tout cas de ce qu'on voit actuellement. Barrett, son espèce d'armure toute moche, ouais, je suis pas spécialement fan, quoi.
Mais moi, au-delà de l'aspect cosmétique, ce qui me laisse le plus dubitatif, c'est est-ce que Final Fantasy VII avait bien besoin d'un système de job ? Parce que moi, ce que je trouvais intéressant dans Final Fantasy VII, c'est la pureté du système de matériel, si tu veux. C'est-à-dire que, justement, Final Fantasy VII, c'est le jeu qui a mis de côté les jobs pour te mettre son système de matéria qui était simple, mais qui en même temps permettait de customiser tes personnages comme tu voulais. Et du coup, est-ce que ça sert bien à quelque chose de rajouter une couche de job par-dessus ? Je ne suis pas convaincu, quoi.
Bah, alors, moi, je pense que peut-être que ça sera pour justement optimiser, parce que, comme tu le dis, en fait, le système de matéria que tu as dans Final Fantasy VII, en fait, c'est ça qui définissait ton job avec les matérias que tu utilisais, sans te le dire vraiment. Mais on va dire que si tu avais, par exemple, beaucoup de magie de soins sur ton personnage d'Aeris, on va dire que tu jouais plutôt le mage blanc, et, etc. pour tous les personnages. Mmh. Et je pense qu'en fait, il y a moyen de cumuler l'avantage des matérias plus le job que tu as en mettant la bonne tenue, par exemple. Admettons que tu veux jouer Tifa. Tifa, on sait que c'est un personnage qui est très très axé sur le corps à corps et qui peut faire énormément de dégâts sur la longueur, et surtout elle a un taux de coup critique qui est assez monstrueux avec ce personnage. D'ailleurs, Tifa, très très bon personnage dans Rebirth et Remake, à jouer juste incroyable. Et imaginons que tu as Tifa, tu la joues combattante et que tu as une tenue aussi combattante qui t'ajoute des dommages par rapport aux dégâts que tu vas faire, que ce soit avec les poings ou les pieds. Je pense qu'il y a moyen encore de plus péter le jeu que tu as pu faire dans le Rebirth et de faire des trucs encore plus fous, quoi. Après, j'espère que ça sera le cas, parce que pour le moment, je ne peux pas savoir. Mais je pense qu'il y a moyen d'associer le côté job au côté matériel que tu vas prendre en compte dans ton truc et de faire un truc très très intéressant. En tout cas, c'est ce que je souhaite pour ce truc-là, parce que c'est visuellement, en termes de design, on va dire, ceux que j'ai vus pour le moment, ça m'attire pas trop.
Ah, Barrett, c'est vraiment si une catastrophe. Intérêt... Enfin, son armure, ça lui va pas du tout. Hein, c'est... oh, mon pauvre Barrett, qu'est-ce qu'il t'en fait, quoi.
Mais après, si tu à la limite, tu vois, parce que quand tu seras en plein combat, tu vas pas être là à regarder l'armure et la fixer. Mais si ça apporte un intérêt de ludique et de gameplay, mais moi, je dis oui, parce que je me demandais, en fait, comment ils pouvaient aller plus loin que ce qu'ils avaient fait avec Rebirth. Et bah, peut-être que c'est le truc qu'ils ont trouvé justement pour amplifier encore plus ça. Parce que dans Rebirth, ils t'ajoutaient déjà, tu vois, les attaques combinées que tu pouvais faire à deux ou trois personnages et qui dynamisaient déjà pas mal les combats qui étaient déjà assez bons dans Remake. Là, si en plus de ça, on garde les attaques combinées, plus le système de pose active de Final Fantasy VII Remake, plus le système de job qui est cumulé au matériel, peut-être qu'on aura affaire à un des meilleurs systèmes de jeu de... un des meilleurs systèmes de combat dans un RPG moderne, quoi. Donc c'est pour ça que je suis fou, comme la news de AKBD qui nous annonce un teaser pour Persona 6, mais on ne voit pas grand chose, donc osef, quoi.
Alors par contre, effectivement, priorité au direct, je voulais juste vous mettre vite fait le trailer de Valor Mortis qui a l'air incroyable. Enfin, je regardais ça, donc je rappelle, Valor Mortis, c'est un jeu à la première personne, un peu Souls-like, j'ai l'impression, enfin en tout cas ambiance Souls-like, avec des morts vivants,
ouais,
etc.
Avec des armes à feu.
Armes à feu, mais époque napoléonienne, quoi. Et d'ailleurs, Napoléon, qui dans le jeu est joué par Mr. Vincent Cassel himself, rien que ça. En tout cas...
Bah, décidément, il aime bien le jeu vidéo, Vincent Cassel, en ce moment, avec son rôle dans Tekken et plus là dans Valor Mortis.
La DA du jeu, elle est incroyable. Ça a l'air très dynamique comme système de combat. Moi, j'ai hâte que le jeu sort. Voilà.
Mais ça, est-ce que c'est un jeu français ou pas ? Parce que il y a quand même un truc qui est assez paradoxal, c'est que j'ai l'impression que les mecs qui s'approprient le plus la culture française dans le jeu vidéo, c'est pas les Français, en fait. Et tu vois, à chaque fois qu'on voit des jeux qui prennent des trucs de la culture française, c'est souvent des jeux souvent japonais ou autres. Et mis à part Clair Obscur Expedition 33, j'ai pas trop de souvenirs de jeux qui... Ah si, il y a quand même eu, comment il s'appelle ? Remember Me ?
Il y a Steel Rising aussi, qui faisait un Souls-like ambiance évolution française.
Ça,
ah oui, bah, c'est le studio qui est fermé, c'est Spiders, malheureusement.
Okay.
Donc, ouais.
Il y a Spyro, pour ceux qui aiment. J'y ai jamais joué, mais pourquoi pas. Un nouveau Spyro.
Spirou le dragon.
Ouais, le petit dragon.
Spirou le
Rome. Non, pas Spirou. Non, Spirou. Là, c'est Spirou.
Bah, moi j'ai fait le remake de la trilogie qui est sortie sur PS4.
Oui, il y avait une trilogie, ouais, effectivement. Et c'était bien. Parce que je l'ai en plus.
Ouais, bah, moi, je trouve que c'est cool. En fait, c'est des jeux que tu peux faire avec. Par exemple, si tu as des enfants et tout, tu peux faire avec. Et honnêtement, ça se laisse jouer de manière très agréable. En plus, ça, c'est des jeux très colorés. Tu passes pas un mauvais moment dedans. Ça se laisse jouer plutôt bien. C'est un hommage au jeu de la première PlayStation. Et tout a été refait de manière assez bien, de manière graphique, même en termes de jouabilité. C'est beaucoup moins rigide, mais surtout, t'as l'impression d'être dans un film d'animation, et ça, c'est cool, quoi.
Mmh. Ouais, je crois que mon fils me l'a piqué, il faudrait que je lui redemande.
Bon, on enchaîne.
Bah, c'était ton dernier jeu, hein. Ouais. Alors, je vais faire une petite news sur First Light, James Bond. Je vous en ai parlé la semaine dernière que EU avait fait une super affaire, hein, parce qu'ils ont vendu 1,5 million de copies en 24 heures, donc ça veut dire que le jeu va très très bien se vendre. Hein. Déjà, je pense qu'il a fait son chiffre. Et là, je vois quoi en faisant la news vendredi, que Amazon, parce que c'est eux qui détiennent la licence, vu qu'ils ont racheté la MGM qui détenait la licence de James Bond. Mais le deal entre IO et la MGM était bien avant le rachat.
Alors,
par
attention,
Amazon.
Attention. Non, excuse-moi, j'ai compris un truc. Non, vas-y, continue, excuse-moi.
Ok. Donc, du coup, Amazon, voyant que le jeu cartonne, commence à se mettre, sur les rangs en disant, écoutez, nous, pour les prochains jeux, on va avoir notre mot à dire, quoi. Donc, ils veulent s'impliquer dans les futurs projets. On ne sait pas s'ils veulent impliquer IO. Moi, je serais eux, je continuerai à travailler avec eux parce que, leur studio interne, quand tu vois New World, ce que ça a donné, on peut avoir peur. Mais
Surtout qu'ils n'ont plus de studio interne, en fait. Donc, oui. Ça va être compliqué. Hein.
je pense qu'il y a un effet un peu opportuniste d'Amazon qui se dit « Ah, ils ont bien marché, la licence allait à nous. On va essayer de récupérer le succès et faire des jeux derrière. » Le problème, c'est que s'ils font de la merde, ça ne sera pas ouf, quoi. Donc j'espère qu'ils seront assez intelligents pour garder IO, leur laisser la licence et continuer à travailler sur la licence. En espérant que... Voilà, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez.
Bon, c'est Amazon, quoi. Ils font de la merde. Comme d'habitude.
Oui.
Bon, après, honnêtement, le truc, c'est que je suis pas sûr que IO Interactive ait forcément envie de passer d'un projet où ils avaient les mains libres, où ils faisaient ce qu'ils voulaient... Vous avez de compte de rendre à personne, et où en plus les pépettes c'était pour eux, un projet où ils vont être sous la houlette d'Amazon qui va leur casser les couilles, et où en plus il faudra pas partager le pognon avec Amazon, quoi.
C'est bien dommage parce que ce 007 c'est un jeu très imparfait, mais tu sens que ça pourrait être peaufiné dans une suite, et j'aurais bien aimé que ça soit IO Interactive en fait. Qui soit à la charge de ça, parce que c'est quand même eux qui ont mis devant James Bond dans le jeu vidéo sur devant de la scène. Et là, dès que les spotlights sont allumés, tu vois les mecs direct qu'ils arrivent comme des rapaces. Non, mais en fait, on récupère le truc et tout.
Ouais, ça fait trop opportuniste à mon goût.
Non, mais surtout qu'on connaît Amazon, c'est qu'ils ont eu plein de projets dans le jeu vidéo. Et dites-moi si je me trompe, mais il n'y en a aucun qui est sorti avec un succès. Je crois que même la plupart ont été annulés.
Mais même au-delà du succès ATH, parce que tu peux faire des projets qui se plantent, mais où tu... Comment dire? Tu ne traites pas tes clients comme de la merde, quoi. Et le problème, c'est qu'Amazon, ils ont géré leur projet n'importe comment, en fait. C'est tout. New World, c'était un très bon jeu, mais c'était un très bon jeu qui avait quelques soucis et qu'il fallait corriger. Et que le studio qui gérait le jeu était enfin en train de corriger ces soucis-là. Et au dernier moment, on leur a dit « Non, mais en fait, on arrête tout, quoi. Du jour au lendemain. Comme ça. Et on les achetait comme des merdes. » Donc voilà, c'est ce type d'employeur-là, Amazon, en fait. Donc est-ce que tu as vraiment envie de travailler avec ces gens-là, à un moment donné, quand tu t'appelles IO Interactive, que tu as une licence comme Hitman qui cartonne et que tu n'as plus rien à prouver à personne, quoi, en fait.
Ouais, je pense que malheureusement, soit IO Interactive créera une nouvelle licence comme ça, un peu espionnage, infiltration, soit ils continueront sur du Hitman.
Ou alors ils leur disent c'est comme nous on veut, ou alors vous vous démerdez. C'est qui tout double.
Ça veut dire partager les recettes du jeu, avoir aussi un cahier des charges que Amazon va te mettre sous la houlette.
Leur imposer qu'ils font comme ils veulent, ils n'ont pas à leur demander quoi que ce soit.
Tu sais très bien qu'Amazon, jamais Amazon va te dire
dans
oui,
ce cas-là,
oui,
ils disent démerdez-vous, c'est tout, comme ça c'est réglé.
C'est qui, ouais, mais pour
ils acceptent, tant mieux pour eux. Ils acceptent pas, bah ils se démerdent, hein, et puis on verra ce qu'ils vont faire.
Ça me fait un petit peu chier parce que. Parce que Union Interactive, si tu vois que quand même, c'est des mecs qui apprécient le média jeu vidéo, qui proposent des trucs, qui essayent de faire des choses sans forcément avoir les moyens des gros triple A. Et là, le fait que tu vois, ce jeu-là a eu un succès, directement, en fait, on laisse même pas le temps de pouvoir peut-être faire une suite. Et t'as Amazon direct qui veut mettre la main à la pâte, quoi. À la limite que si, comme tu le dis, Amazon leur propose un contrat ou en disant « Ok, on vous fait confiance par rapport à la licence, développez-nous une suite dans la même veine », je serais plutôt d'accord. Mais si c'est Amazon qui décide voilà, de mettre mort. Telle ou telle chose, bah oui. Et puis d'imposer des conditions de travail aussi inacceptables, non, tu vois, ça serait dommage, quoi.
C'est mort. Après, LKBD n'est pas trop chaud, lui, il préfère qu'il se concentre sur Hitman, mais bon, ça les change quand même, LKBD, ils vont pas faire du Hitman jusqu'à la fin de leur jour, quand même. C'est cool, hein, Hitman, la licence, elle est géniale, hein. Mais peut-être qu'ils avaient envie de changer aussi de registre, même si ça ça reste un petit peu un Hitman-like, quand même, un petit peu. Même si c'est un peu plus action, quand même.
La partie Hitman, elle est très très légère. Hein. C'est vraiment très léger. Hein. C'est...
Rien que la présentation des missions, tu sens que ça pue le Hitman à plein nez, quoi, quand même.
C'est surtout ouais, la présentation des missions et puis surtout les environnements que tu explores avec la foule de PNJ que tu ressens que ça a
été. Ouais, tu vois que le glacier, il est là, quoi.
Voilà. Et même tu reconnais des assets et tout dans le jeu. Mais le truc le plus dérangeant, c'est surtout que. En fait, IO Interactive, ils peuvent aller sur une nouvelle licence, mais est-ce qu'ils ont envie d'aller sur une nouvelle licence? Et on sait que quand ils ont fait des nouvelles licences à l'époque aussi, ils s'étaient un peu plantés. On se rappelle de Ken & Lynch, qui n'avait pas eu de succès si redondissant.
Bon, en même temps, Ken & Lynch, c'était pas bon, hein, donc au bout d'un moment...
Ken & Lynch, ouais.
C'est peut-être ça aussi, quoi. C'est qu'ils étaient dans un registre où ils n'étaient pas à l'aise et le jeu n'était pas bon, quoi. Faut dire ce qu'il y a, donc...
Ouais, ouais.
Allez, bon. C'est... Priorité oui. Au direct. Un nouveau Spyro annoncé.
Ouais, Spyro. Allez, je vais vous faire mon petit test de The Run. Alors, sous couvert de Kafka, c'est lui qui m'a présenté le jeu dans le tunnel. D'ailleurs, je le remercie beaucoup, hein, dédicace à lui, d'avoir trouvé ce petit jeu narratif, même si c'est pas vraiment un jeu narratif, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, en fait. On a affaire à un jeu en FMV, donc c'est, on va dire que c'est full motion vidéo, hein, si je me trompe pas, donc c'est fait avec des vrais acteurs, donc c'est pas vraiment un jeu vidéo en tant que tel. Donc vous incarnez une jeune influenceuse, hein, qui s'appelle Zana Hendrix, qui est influenceuse de sport dans le running, et qui part en voyage en Italie, donc elle va faire son run un matin, et il va lui arriver des choses étranges, donc c'est vraiment le pitch, je veux pas trop en dire, parce que le jeu est pas très long, et donc si j'en dis trop, voilà, c'est un petit peu abusé. Donc le jeu est d'une simplicité enfantine, en fait, on va tout simplement dire que c'est un jeu interactif.
Un film interactif,
je veux dire. Parce que certaines situations se posent à vous, et vous avez deux choix. Soit bah, vous dites oui, non, ou droite-gauche, enfin bref, vous avez deux ou trois possibilités. Et donc ça restreint beaucoup les... Au niveau gameplay, c'est vraiment droite-gauche, quoi. Donc, pour ceux qui aiment le faire du gameplay, c'est pas vraiment un jeu pour vous. Par contre, ceux qui aiment bien suivre une petite histoire interactive avec une histoire quand même qui est intrigante et intéressante, franchement, ça peut vous plaire.
Par contre, on peut dire que c'est quand même le plus beau jeu du monde parce qu'il est très réaliste.
Oui, il est très réaliste, c'est un jeu très réaliste, c'est clair, c'est effectivement.
C'est le mec, il n'a pas compris que c'était une...
Très réaliste avec des acteurs fauchés, par contre. Hein.
Des acteurs fauchés. Alors, ce genre de jeu, bon, il y en a beaucoup, mais les plus connus, enfin, ceux que je connais en tout cas, c'est Night Trap ou Her Story, je pense que ça vous parle. Surtout Night Trap, qui est un vieux jeu du Mega CD. Qui est ressorti
d'ailleurs.
Mais après,
aujourd'hui, ce genre de jeu, il existe toujours. Mais maintenant, au lieu de faire avec des acteurs et des décors fauchés, ils le font plus dans. Ils intègrent ça dans un jeu vidéo. Par exemple, tu penses à Until Dawn. C'est un jeu FMV, mais avec des cinématiques, en fait.
Ils auraient pu le faire avec des acteurs aussi, c'est vrai. C'est vrai. Mais moi, ça, j'aime bien parce que c'est le petit côté kitsch que j'aime bien, tu vois, le côté un petit peu nanar ou série B, tu vois ce que je veux dire.
Moi, c'est le truc qui me dérange le plus, justement, dans ce genre de jeu.
Ah, c'est ça, tu trouves ça naze, quoi. Ben, moi, ça me fait rigoler, ça me fait rire et tout. Et puis, l'histoire, l'histoire, elle est intéressante, hein, franchement, parce que...
Non, mais ça me fait rire parce que en même temps, je vois le trailer et... J'ai vu le moment où la nana lui met la tête dans la casserole, ça m'a fait mourir de rire.
Ouais, parce que l'autre avec son regard de sadique, c'est sûr.
C'est ça.
Ah non, moi je me suis marré. Hein, alors le problème du jeu, c'est peut-être ça aussi qui m'a plu, c'est que les acteurs se prennent un peu au sérieux, alors que les situations sont un petit peu débiles, tu vois, ou irréalistes. Donc c'est un petit peu particulier. Alors moi ce que j'ai bien aimé dans le jeu, c'est qu'il est d'une simplicité hallucinante. Hein, il est très accessible. Hein. Droite, gauche, voilà. Si vous êtes même manchot, vous pourriez y arriver. C'est l'ambiance kitsch qui me plaît beaucoup, même si les acteurs se prennent beaucoup au sérieux. Les morts de l'actrice sont assez débiles à souhait, hein, franchement. Elle se fait ébouillanter, tirer dans la tête, enfin bref, il y a tout un tas de morts différentes. Vous avez quand même plus de 200 scènes à trouver. Il y a 5 fins différentes. Alors moi j'en ai trouvé 4. Et en fait, quand vous avez fini votre run, vous pouvez voir votre statistique avec une map de tous les parcours que vous avez fait. Et là, justement, pour la 5e fin, je vois pas où est le parcours. Donc, ça doit être un truc très subtil. Donc, faut que je regarde ça.
Regarde une soluce.
Oui. Alors, c'est aussi techniquement parlant, ça tourne sur une cafetière. Hein. C'est vraiment, c'est un film interactif. Donc, n'importe quel PC bas de gamme peut faire tourner ça. Ça coûte que 10 euros. Voilà. C'était vraiment. C'est vraiment un tout petit prix. Pour,
mais donc, si. t'as pas parlé du truc le plus intéressant quand même du
ouais.
Dans ce genre de jeu, c'est quand même l'histoire. Ça parle de quoi ça parle? Est-ce que c'est intéressant? T'as trouvé ça bien?
Moi, je l'ai trouvé intéressante parce que justement, comme t'as plusieurs fins différentes, c'est de savoir mais qu'est-ce qui se passe si j'avais fait ce chemin-là, tu vois? Ou non, si j'avais fait ce choix-là.
Le pitch de.
Je l'ai dit. Je vais pas trop en dire parce que. Parce que le jeu est très très court.
Et il commence à passer les trucs. Voilà.
Le jeu est très court parce que je vais t'expliquer. Le premier run que tu fais pour finir le jeu, il dure à peu près une heure.
Ah oui, ok.
Donc c'est très court. Et les runs que tu fais suivants, c'est environ 30 minutes. Parce que tu peux couper les scènes que tu as déjà vues.
Ok.
Donc du coup, si je vous en dis trop, ça va spoiler. Donc je préfère être très évasif et laisser les gens.
Par contre, on est d'accord qu'il faut pas s'attendre au scénario du siècle non plus. C'est-à-dire que c'est.
Non, mais voilà. c'est en fait le scénario, c'est pas qu'il est extraordinaire. C'est plutôt les fins qui. La première fin peut être un peu surprenante.
Non, mais en fait,
tu t'y attends pas.
C'est un jeu pour amateurs de nanars, si j'ai bien compris.
j'aime les nanars, sûrement.
Oui, non, mais voilà. Non, mais c'est pas une reproche. Moi, ça me fait marrer.
Non,
les nanars,
y a pas de souci.
Moi, j'aime bien, tout ce qui est série B. Ça fait marrer, tu vois. Donc,
j'adore tout ce qui est série B, un peu. Les acteurs qui se prennent au sérieux alors que tout est éclaté autour d'eux, les décors, les dialogues, tout. Mais eux, ils sont dedans, tu vois.
Après, ça dépend. En fait, moi, je trouve que c'est le genre de film qui se regarde dans un contexte particulier. C'est-à-dire, ça se regarde pas seul, ça se regarde avec des amis. Et en général, on sait qu'on va rigoler devant le film. Mais regarder ça tout seul, tu vois, je suis pas chaud.
Après, c'est un jeu qui est très très court. Hein.
De ce que tu dis, je comprends pourquoi t'as pas voulu parler par rapport à l'aspect scénaristique, vu que tu me dis qu'il est très court et que.
C'est vraiment très court. Ouais.
Et apparemment, c'est. Le pitch de départ, ça commence dès le début. Et tu cours et puis il se passe des trucs.
Ouais. Et tous les choix que tu feras, tous les choix que tu fais auront vraiment un impact sur la fin. Surtout si tu veux une bonne fin, parce que t'as plusieurs types de fins, la bonne, la mauvaise, et une qui est un peu entre les deux. Enfin, t'as plein de styles, quoi. Voilà. Mais la première fin est vraiment très surprenante. Alors, je vous dis pas, faites-le, hein, mais disons que moi, j'aime bien, comme vous connaissez, vous savez, hein, j'adore les jeux comme ça. Donc, quitte à vous faire un test, c'était la bonne occasion. Par contre, j'ai de l'écho dans le micro, je sais pas si c'est vous.
Ouais, moi aussi, mais bon.
Bon, on va s'arrêter là, en tout cas, messieurs.
Ouais, merci. Au chat.
Merci à tous ceux qui nous ont suivis pour cette semaine. Ouais. Bon, on continue de suivre ce que va nous rapporter le KBD et on vous fait un rapport la semaine prochaine. Allez, des bisous, les gens.
Salut, salut.
Bon, bonne fin de dimanche.
Bye bye.